Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la parole de Dieu ce matin? Donc, il y a quelque chose qu'on aime faire ici à la vie comblée. On aime faire une petite déclaration de la foi. Parce que nous croyons que ce livre est vraiment inspiré de Dieu. Et il y a beaucoup de raisons pour y croire aussi. Il y a beaucoup d'évidence qui démontre que ce livre est vraiment inspiré de Dieu. Juste le nombre de prophéties qui ont été accomplies. Et c'est incroyable quand on voit cela. On voit Jésus crucifié, mais si on lirait en psaume 22, on voit sa crucifixion détaillée. C'était des centaines d'années avant que la crucifixion soit inventée. Pourtant, on le voit détaillé en psaume 22. Tellement de choses. Un jour, il faut qu'on en parle davantage. Mais qu'est-ce qu'on veut dire tout simplement ce matin? C'est que ce livre est vraiment inspiré de Dieu. Ça contient les paroles de Dieu. Et cette parole est capable de changer votre vie. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. Et juste, si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille que vous avez reçue à la porte. Prenez cette feuille. Ça contient les versets qu'on va voir. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons terminer une série qu'on a commencée. S'appelle « L'homme dans le miroir ». Et on a parlé de ça depuis déjà 3 semaines, c'est la 4e semaine. Et il y a un verset qui ne se trouve pas dans vos notes, mais j'ai mis quand même sur le PowerPoint, qui était un peu notre texte clé. Et je vais le lire encore ce matin, et on va continuer. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Tout le monde dit « sauver vos âmes ». Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux, ou le mot heureux peut dire aussi béni dans son activité. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient être bénis dans leur activité? On a toutes des choses à faire dans la vie. On a besoin d'aller travailler. On a besoin de payer les factures et chercher l'épicerie. On a toutes sortes de choses qu'on fait pour les loisirs, etc. Mais savez-vous, il y a seulement une façon d'avoir les activités bénies. Et béni veut dire quoi? D'avoir vraiment la présence de Dieu, le fruit de Dieu et on pourrait dire la raison d'être de Dieu manifestée à travers nos activités. La seule façon d'être heureux ou béni dans la vie, c'est comment? C'est de regarder comme dans un miroir la parole de Dieu et puis de la mettre en pratique. Et quand je fais ce que je vois dans la parole, je suis béni. Amen? Le contraire est vrai. Si je ne fais pas ce que dit la parole et je suis actif, je peux passer toute ma vie faisant beaucoup de choses, dépensant beaucoup d'argent, dépensant beaucoup d'énergie et d'émotion, et puis à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai? Rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis en pratique la parole de Dieu. Donc vraiment, avant d'aller plus loin, je veux qu'on s'engage ce matin. OK? On n'est pas là pour écouter un sermon. On est là pour laisser la parole de Dieu faire son œuvre dans notre vie. Regardez-moi. Si vous êtes ici ce matin, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Il veut que vous atteigniez cette raison d'être qui est destinée pour vous. Amen? Alors donc, et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui sont déçues, leur vie est pas qu'est-ce qu'elles veulent, elles sont pas vraiment comblées dans leur vie. Et voici la raison. Il y a d'autres personnes qui manquent la confiance en soi, ils n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, et voici pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir une confiance et d'avoir une image de soi-même qui est saine et qui est pure et qui est fort? Amen? Voici la réponse. Donc, on parle de l'homme dans le miroir, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la parole de Dieu, la Bible, est comparée à un miroir. Et qu'est-ce qu'un miroir fait? Un miroir reflète la vérité, n'est-ce pas? Si on est fatigué, on a des rides sous les yeux et on se regarde dans le miroir, on voit dans le miroir que, oh, j'ai pas bien dormi, mes yeux sont rouges et mes cheveux sont un peu partout et, oh, ça fait dur, n'est-ce pas? Le miroir ment pas. Ce que vous êtes dans le naturel va être reflété dans le miroir. N'est-ce pas? C'est ça, si vous êtes blanc, si vous êtes noir, si vous êtes d'une autre couleur, vous allez voir dans le miroir la couleur que vous êtes. Si vous avez des cheveux ou si vous n'avez pas des cheveux, ça va refléter la vérité. Amen? Donc, le naturel, l'homme naturel est reflété dans un miroir naturel. On se regarde, on se voit et on dit, bon, c'est ça que j'ai l'air aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on a encore une fois cette image de ce monsieur qui se tient devant le miroir. Et là, on voit qu'il n'est pas en forme. On voit qu'il a perdu quelques cheveux. Mais qu'est-ce qu'il voit dans l'image? C'est vraiment, ça doit être son imagination, hein? Vous êtes d'accord? Il se voit jeune, beau, bâti, musclé, en pleine forme. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est pas la réalité. Vous êtes d'accord? Aimeriez-vous avoir un miroir comme ça? Hein? Puis, oh wow, ça pourrait booster votre confiance le matin, hein? Vous allez sortir de la maison et dire, oui, je suis pas mal beau ce matin. Mais en réalité, c'est peut-être pas forcément le cas. Mais regarde bien. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que la parole de Dieu est comparée à un miroir, mais voici la différence. Le problème avec les miroirs naturels, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de vous changer. Ça va juste refléter qu'est-ce que vous êtes et ça reste comme ça. Tandis que le miroir de la parole de Dieu a le pouvoir de faire deux choses. De un, ça va refléter qu'est-ce que vous avez l'air dans l'homme intérieur, dans le cœur, pas juste la surface, mais Dieu regarde le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Et la parole révèle le cœur de l'homme aussi. Quand vous regardez dans le miroir de la parole, ça reflète qui vous êtes pour vrai. Ça ment pas, ça démontre et ça va manifester le vrai vous à l'intérieur. L'homme caché du cœur se voit dans le miroir de la parole. Mais voici un petit atout, c'est un plus qui est génial. C'est qu'avec le miroir de la parole, il y a un certain pouvoir, une puissance. C'est que cette image qui est reflétée dans la parole de votre homme intérieur, plus vous regardez cette image, plus vous plongez des regards et vous voyez qui vous êtes vraiment, plus ça a le pouvoir de vous changer, même pas votre corps physique, mais ça change votre façon de penser. Ça change votre façon de ressentir les choses et ça change votre façon de prendre des décisions. Et si vous avez assisté aux autres dimanches précédents, vous savez que quand on parle de l'intelligence, ce qu'on pense, quand on parle de ce que je ressens, les émotions, et quand on parle de ce qu'on choisit, notre volonté, on parle de quelle partie de l'homme? On parle de l'âme. Nous sommes les êtres sur trois dimensions, esprit, âme et corps. Tout le monde dit, je suis un esprit. Je possède une âme et j'habite dans un corps. Le vrai vous, c'est un esprit, c'est l'homme caché du cœur. Vous habitez dans un corps physique, mais vous avez aussi une âme. Vos émotions, votre volonté et votre intelligence. Et la parole qu'on a vue tantôt a dit que recevez avec douceur la parole plantée dans votre cœur qui peut sauver votre âme. Donc, voici la beauté. Le miroir de la parole de Dieu peut faire deux choses. De un, ça reflète la vérité de qu'est-ce que nous avons l'air dans l'homme caché du cœur, dans mon esprit. On va le dire ensemble. Dans le miroir de la parole, je vois qu'est-ce que j'ai l'air dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que ce miroir peut faire, ça peut changer et transformer votre âme, votre intelligence, vos émotions et votre volonté. Et si votre intelligence, vos émotions et votre volonté est transformée dans la même image de qu'est-ce que tu vois dans la parole, dans le miroir, là, tout d'un coup, vous avez une chance à faire qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez dans la vie. Votre corps, qui ne va pas changer d'apparence, votre corps va rester pareil à moins que vous fassiez des choses. Hein? Vous pouvez mettre des couleurs dans les cheveux, vous pouvez vous entraîner, manger bien, peut-être perdre quelques poids, vous pouvez vous mettre en forme. Il y a des choses que vous pouvez faire pour transformer l'apparence extérieure, changer des vêtements, etc. Mais la parole de Dieu change l'âme. Et la parole de Dieu reflète le changement qui a déjà été effectué par le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. Quand vous avez confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin, on a eu Yvon qui a confessé Jésus comme Sauveur et Seigneur. S'il était sincère, je crois qu'il était sincère, quelque chose s'est passé instantanément. Gilles, ici, a confessé Jésus la semaine passée. Il a confessé avec son cœur, avec sa bouche, il a cru dans son cœur. Et instantanément, Jésus-Christ est entré dans son cœur, dans l'homme intérieur, il a été changé. La Bible dit « régénéré ». Donc, mais ce changement se voit, on voit qu'est-ce qu'il a l'air quand on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu. Et plus on plonge le regard, plus on est changé. Regardons le prochain verset, et c'est dans vos notes aussi. 2 Corinthiens 3, 17. Est-ce que vous êtes là? C'est tellement bon et je veux que vous saisissiez ce message parce que ça va vraiment changer votre vie de A à Z. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformé en la même image, quoi? De gloire en gloire. Tout le monde dit de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus. Le changement que Dieu veut effectuer dans votre vie, c'est un processus graduel. C'est-à-dire que quand vous êtes né de nouveau, votre esprit, votre âme intérieure est changé instantanément. N'est-ce pas? C'est boum, dans un clin d'œil, vous êtes une nouvelle création. Jésus est là, il fait sa demeure dans votre cœur. Mais, changer l'âme, c'est un processus de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plonger les regards dans le miroir de la parole de Dieu. Il faut voir qu'est-ce que nous avons l'air pour vrai. Amen? Alléluia. Donc, regardons. Il y a quelque chose qu'on veut souligner ce matin qui est tellement important par rapport au miroir de la parole de Dieu. Premièrement, on va voir que Dieu a tout mis en Christ. Et ensuite, il nous a mis en lui. Pourquoi? Parce qu'on dit, ben, comment ça que quand je regarde dans le miroir de la parole que je vois quelque chose de si beau? Imaginez quelqu'un, hein? Des personnes qui prennent le temps de bâtir leur corps, ils se regardent dans le miroir, « Oh, tu es vraiment quelque chose aujourd'hui. C'est beau, tu es merveilleux. Hein, » on dirait que, ouf, un peu d'orgueil, hein? Mais savez-vous que spirituellement parlant, quand vous vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu, vous devriez dire, « Wow, tu es beau! Wow, tu es belle! » Et c'est pas égoïste et c'est pas orgueilleux non plus. Dans le fond, c'est Jésus qui reçoit tout le crédit. Tu peux dire, waouh, Seigneur, tu as pris quelque chose qui était si laid, qui était si blâche. Parce que ma vie avant de connaître Jésus n'était pas trop beau, vous êtes d'accord? Vous ne me connaissez pas. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Mais vous pouvez le dire parce que nous étions tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Nous étions tous sans Jésus et sans Jésus, on est tous laid. Donc, on regarde et on voit, wow, regarde qu'est-ce que la Bible dit à propos de moi. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. On peut dire, wow, je suis beau, grâce à Jésus. Il a pris quelque chose de mauvais, il m'a régénéré, il m'a changé, et maintenant je suis en train d'être transformé de gloire en gloire dans cette image. Amen. Mon cœur est déjà changé, mon âme se transforme de jour en jour. Dieu a tout mis en Christ. Mais comment ça? Pourquoi est-ce qu'on est si beau? Voici la réponse. C'est pas vraiment compliqué. C'est un mystère, mais c'est un mystère simple. Voici qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu a décidé dans sa sagesse de tout mettre dans un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Dieu a pris une décision avant la fondation du monde de se faire chair, de devenir un homme. Il a pris une décision de mettre toute sa divinité et sa nature divine, on pourrait dire, dans un homme. OK? Donc, et voici la chose qui est le mystère. C'est que quand Jésus est venu la première fois, il a mis de côté certains pouvoirs et certains privilèges divins. OK? C'est-à-dire que il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il n'a pas marché sur la terre comme Dieu Tout-Puissant, parce qu'on sait que Jésus est tellement puissant que si on le verrait aujourd'hui dans sa gloire, au ciel, on n'a même pas besoin du soleil. C'est le Fils de Dieu qui éclaire la ville. On voit que Paul, Saul de Tarse, quand il a vu Jésus sur la route de Damas, il est tombé comme mort, juste à cause de l'éclat, de la lumière. Jésus brille. Amen. Donc, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et ça, c'est le mystère. Il était capable de mettre de côté cette gloire et cette puissance tout en gardant sa nature divine. Sa nature divine, c'est quoi? C'est une nature d'amour. Et il s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et maintenant, on voit, Jésus est venu au monde comme un bébé. Il a grandi. Il a vécu une trentaine d'années sur la terre. Il a été crucifié. Il a été enterré. Le troisième jour, ressuscité. Mais savez-vous quoi? Juste avant d'être crucifié, en Jean chapitre 17, Jésus dit, « Maintenant, Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi au commencement. » Et maintenant, Jésus, qui était à 100% homme, 100% Dieu, il est monté au ciel, il est maintenant glorifié de nouveau. C'est pourquoi, et j'ai pas planifié de dire cela, mais je pense qu'on a besoin de l'entendre ce matin. C'est pourquoi, avant la crucifixion, Jean l'apôtre, vous vous rappelez de Jean l'apôtre? Il était à la dernière souper avec les disciples. C'est Jean l'apôtre qui avait sa tête côté sur l'épaule de Jésus, n'est-ce pas? Ils étaient les amis. Jean était l'ami le plus proche de Jésus. Ils avaient une relation d'amitié intime. Et Jean, l'apôtre, était capable d'être juste à côté de Jésus, qui était Dieu dans la chair, mais Dieu qui avait mis sa gloire de côté. Mais quand Jésus fut ressuscité et glorifié, et quand Jésus s'est apparu à Jean sur l'île de Patmos dans le livre d'Apocalypse, vous vous rappelez de cela? En Apocalypse, Jean, l'apôtre, le même Jean qui avait sa tête sur Jésus, pas de problème, il voit Jésus ressuscité et glorifié, il tombe comme mort. Parce que l'éclat de Jésus, la puissance et la gloire de Jésus, le même homme n'était pas capable de tenir dans sa présence, dans un corps qui n'était pas encore glorifié. Bonne nouvelle, c'est qu'un jour notre corps va être glorifié. Mais pourquoi je dis tout cela? Pourquoi? Parce que on ne parle pas d'un petit homme qui marche avec une robe et des sandales et une barbe. Ça, c'est pas Jésus. Jésus, il a marché avec une robe et des sandales, mais aujourd'hui, il est glorifié, il est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que Dieu a mis toutes choses en Jésus-Christ. Et regardons ce verset. Regardons. Colossiens 2, 9. Vous êtes là? Car en lui, en qui? En Jésus. Comment on dit? En Jésus. En lui habite corporellement toute la quoi? La plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, tombez en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Aujourd'hui, on a vu des personnes baptisées, n'est-ce pas? Ça représente, dans le naturel, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit. Ils ont été ensevelis, enterrés avec lui dans le baptême. Mais regarde bien. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Tout le monde dit en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité des morts. Voici qu'est-ce que je veux qu'on saisisse. Pourquoi quand on se regarde dans le miroir de la... On parle toujours du miroir. Pourquoi quand on se regarde dans le miroir de la parole, est-ce qu'on peut dire « Wow, je suis beau! » Ok, tout le monde regarde ta Bible et dit « Wow, je suis beau! » C'est juste une pratique, hein? Là, je sais que ça n'a pas fait grand-chose, mais quand vous le faites pour vrai, avec une révélation de l'Esprit, ça va vous transformer. Pourquoi est-ce qu'on peut dire « Wow, je suis beau? » C'est parce que Dieu a mis toutes choses en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que ça existe un être plus beau que Jésus? Plus glorieux que lui? Il est le chef de toute domination, de toute puissance et toute autorité. Il est assis à la droite de Dieu. Jésus est tout et en tout. C'est lui qui est la pierre angulaire de la maison de Dieu. C'est lui qui est le seul nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est Jésus. Dieu a mis toutes choses en lui. Toute la divinité habite en lui, corporellement, en Jésus-Christ. Dieu a tout mis en lui, et puis voici la chose. Ensuite, Dieu nous a mis en Jésus. Et on va voir, il a mis Jésus en nous. Donc, c'est qui est en nous? Jésus. Et nous sommes en qui? En Jésus. Et Jésus est le plus beau, n'est-ce pas? Et si Jésus est le plus beau, et comme on va voir, je suis une seule plante avec lui, je suis le plus beau aussi. Tout le monde dit, je suis le plus beau. Marie, dites ça à votre femme, hein? Je suis le plus beau. Mais maintenant, si tu veux vraiment avoir des points, dis, chérie, tu es la plus belle. Mais dites ça à n'importe qui. Je suis beau, je suis merveilleux, parce que, et vous mentez pas. Pourquoi? Parce que le miroir ne ment pas. Et le miroir reflète la réalité. Et la réalité, c'est que Dieu a tout mis en Jésus-Christ et il a mis Jésus en vous et vous en Jésus. Regardons, on va continuer. Comment ça? Et c'est vraiment un mystère qui a été révélé dans l'Évangile. Il y a trois éléments qu'il faut comprendre. Comment Dieu a fait cela? Trois choses. La substitution, l'identification et l'union. Et on va juste regarder ça assez brièvement ce matin. Première chose, pour que Dieu puisse mettre Jésus en nous et nous en Jésus, il avait besoin de faire une œuvre, qu'est-ce qu'on appelle une œuvre rédemptrice, une œuvre de rédemption. Première chose dans cette œuvre, c'était la substitution. Et dans cela, Jésus a pris ma place afin que je puisse partager la sienne. N'est-ce pas bon de savoir que Jésus a pris votre place? Qu'est-ce que vous voulez dire, il a pris votre place? C'était quoi votre place? Votre place, la place que nous avons méritée, c'était la place sur la croix, crucifiée pour nos péchés, payée une dette éternelle pour nos péchés. Mais Jésus, dans son amour et dans sa bonté, il a pris ma place. Celui qui était innocent a payé pour celui qui était coupable. N'est-ce pas bon? Combien de vous êtes contents d'avoir eu un substitut? Alléluia. Regardons bien. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En Jean 2, 2, il est lui-même une victime expiatoire. Vous savez c'est quoi une expiation ou propriatoire? Ça veut dire un substitut acceptable. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jésus, il a pris ma place, mais voici la bonne nouvelle. Celui qui n'a pas connu le péché s'est fait péché pour que je puisse devenir la justice de Dieu en Jésus. Deuxièmement, identification. Jésus est devenu comme moi pour un peu de temps pour que je puisse devenir comme lui pour l'éternité. Et quand je dis il est venu comme moi pour un peu de temps, je veux dire quoi? Je veux dire tout simplement ceci. Pour un peu de temps, quand il était cloué à la croix, la Bible dit que Jésus est devenu péché. Il n'a pas commis un péché, il a tout simplement reçu en lui-même mon péché. Autrefois, j'étais séparé d'avec Dieu. Et pour un peu de temps, Jésus était séparé d'avec Dieu. Pourquoi il a crié? Qu'est-ce qu'il a crié à la croix? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris ma place, il est mon substitut, mais il s'identifie avec moi à la croix aussi. Il est devenu péché à la croix, pour un peu de temps. La Bible dit que pour un peu de temps en hébreu, il était abaissé, mais maintenant il est glorifié pour l'éternité. Mais il est devenu comme pour un peu de temps pour que je puisse devenir comme lui pour l'éternité. Hébreux 2, 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Est-ce que vous êtes content que Dieu est miséricordieux? Pour faire l'expiation, et expiation c'est quoi? De payer le prix d'un substitut des péchés du peuple. Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, que c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Père, je demande que tu donnes un esprit de sagesse ce matin. Je veux vraiment qu'on saisisse la réalité de ceci. N'est-ce pas un mystère que quand Jésus était cloué à la croix, c'est comme si nous étions là avec lui. Et je vais le dire encore. Quand Jésus est mort à la croix, c'est comme si Sylvain était à la croix avec lui. Jésus s'est identifié avec Sylvain et avec vous à la croix. OK? Et voici la chose qu'il ne faut pas oublier. C'est un mystère, hein? Mais on voit que Jésus, il pensait à nous tous quand il était à la croix, n'est-ce pas? Mais de la même façon que Jésus s'est identifié avec nous à la croix, on s'identifie avec lui aussi dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus fut ressuscité, c'est comme si j'étais là avec lui. Ça va dans les deux sens. Les péchés sont réglés parce que j'étais là avec lui. Mais je suis maintenant la justice de Dieu et je suis capable de marcher dans la victoire. Pourquoi? Parce que j'étais là avec lui aussi lors de la résurrection. Et c'est un mystère, mais si vous pouvez saisir ce mystère, ça va transformer votre vie. L'union, substitution, identification, l'union. Jésus est devenu un avec moi et je suis en lui et il est en moi. Romains 6, 3 à 5, 6, 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, tout le monde dit une même plante, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Colossiens 3, 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Jean 4, 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure, quoi? En lui et lui en Dieu. Donc vous voyez, je suis en Christ, Christ est en moi, nous sommes une seule plante, Jésus est glorifié, Jésus est beau, il habite en moi, je suis beau. Alléluia! Un chrétien ne devrait jamais avoir une basse estime de soi-même. Jamais! Ouais, mais regarde, il y a des choses que j'aime pas. Bien sûr, on a tous des choses qu'on n'aime pas. Vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas juste regarder l'extérieur, il faut faire comme Dieu, regarder le cœur, regarder l'homme intérieur. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Je vois une nouvelle création si quelqu'un est en Christ. C'est pourquoi il y a à peu près 130, tout le monde dit 130, il y a à peu près 130, peut-être je me trompe du chiffre, mais au moins 130 références dans cette Bible où c'est marqué en Christ, en lui, avec Christ. Et on voit notre identification avec Christ. Je vous encourage à aller sonder la Bible et trouver dans le Nouveau Testament toutes ces places où c'est marqué en Christ, en lui, avec lui. C'est ça. Parce que, qu'est-ce que vous allez voir? Ça parle de moi. Vous m'en dites, ça parle de moi. Alléluia. en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En lui, je suis la justice de Dieu. En lui, je suis plus que vainqueur. Je vais vous donner 4 ou 5 bonnes déclarations à faire dans une minute. En fait, on va le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit quand on se regarde dans la Bible? Voici 4 choses essentielles qu'il faut que vous saisissiez. Il y en a beaucoup plus, mais je vous donne juste un avant-goût ce matin. Qu'est-ce qu'on va voir quand on se regarde dans le miroir de la parole? La première chose que je vais voir et je vais dire, c'est que je suis mort avec Jésus-Christ. Comment est-ce que je le sais? Parce que je le vois en Galates 2:19, dans le miroir. En ce qui concerne la loi, je suis mort. Tout le monde dit, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse, quoi? Vivre pour Dieu. J'ai été mise à mort avec le Christ sur la croix. On va le dire ensemble. J'ai été mise à mort avec le Christ sur la croix. Amen. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, car ma vie humaine, actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Regardez-vous dans le miroir. Plongez les beaux regards là-dedans et dites, j'ai été crucifié avec Christ. La prochaine fois que vous avez le goût de faire des choses que vous faisiez autrefois, des choses de pas correctes, tu dis, non, cet homme est mort. Je ne fais plus ça. Amen? J'ai été crucifié avec lui. Regardons, il y a une autre chose qu'on peut voir. Numéro 2, c'est bien beau d'être mort avec Christ, mais je suis ressuscité avec le Christ et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Allô? Le miroir ne ment pas. Et si vous vous regardez comme il faut avec les yeux spirituels, et regardez-moi dans les yeux encore, okay, parce que je veux que vous saisissiez cela. Lisez pas ces versets juste avec la tête, mais avec un cœur ouvert. Demande au Saint-Esprit, dis au Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Donne-moi la révélation de qu'est-ce que... Aide-moi à comprendre ce que je lis. Donne-moi une révélation pour que je saisisse la vérité. Amen. Et tu vas voir, je suis mort avec Christ, mais deuxième chose, je suis ressuscité avec Christ et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Regardons Éphésiens 2:4, un de mes versets préférés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Encore une fois, nous voyons avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a quoi? Ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes où en Jésus. Vous êtes où? Dieu a mis toutes choses en Jésus et il vous a mis en Jésus. Je suis en Christ. Donc il faut que je me voie en Christ. Je suis mort, mais je suis ressuscité et maintenant je suis assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Spirituellement parlant, je suis déjà là. Et regardons, pourquoi est-ce que c'est important? Regardons ceci. C'est important parce que Dieu dit qu'il a déployé en Christ, ça parle de sa puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, tout le monde dit au-dessus, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Et là, on parle, quand on parle de domination, autorité, puissance, on parle des puissances des ténèbres, on parle des démons. Amen? Pas, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, où est-ce que vous êtes? En Christ. Et Christ est où? En vous. Et actuellement, le corps ressuscité de Jésus se trouve où dans l'univers? Assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Savez-vous, être chrétien, c'est pas juste prier une prière, « Oh Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés », et puis toffer jusqu'au jour que tu meurs et espérer que tu vas aller au ciel. Non, être chrétien, c'est de connaître Dieu, d'être en lui, de l'avoir en vous et de régner dans la vie avec Jésus-Christ. Je suis assis sur le trône avec Jésus. Il est la tête, je suis le corps. Mais les pieds se trouvent dans le corps, n'est-ce pas? Donc, le diable est sous mes pieds. Est-ce que vous êtes content de savoir? Regardez-vous dans le miroir. Vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité avec Christ et vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Puis, numéro 3, je suis plus que vainqueur et Christ le triomphe toujours en lui. Je suis plus que vainqueur en Christ et je triomphe toujours en lui. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, quoi? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, c'est quoi un vainqueur? Un vainqueur, c'est celui qui gagne. Savez-vous quoi? C'est quoi en plus que vainqueur? C'est la personne, c'est l'ami de celui qui a gagné et qui peut partager le butin. Amen? Je m'en souviens, j'ai ma fille, des fois elle voulait jouer un petit, je pense que c'est ma fille qui jouait un petit jeu vidéo et elle avait de la difficulté à gagner la course, c'est une course d'auto, donc elle a demandé à un de ses frères, « fais-le pour moi, fais-le pour moi! » Donc, tu sais, pour mon fils, c'était facile. Donc, il gagne la course. Et puis, ma fille, « Ouh, j'ai gagné! » Pourquoi? Parce que son frère jouait pour lui. Savez-vous quoi? Son frère jouait pour elle. Savez-vous quoi? Jésus a gagné pour nous. Et nous pouvons quand même sauter et dire, « Oui, j'ai gagné! » Parce qu'il a gagné, je suis en Jésus. Amen! Il est vainqueur, mais je suis plus que vainqueur, et je triomphe toujours en lui. Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus a triomphé sur les puissances des ténèbres, j'étais en lui et avec lui. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, tout le monde dit toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Faites ceci, hein? Ça sent la victoire ici. Hein, regardez votre personne à côté de vous. Vous sentez la victoire aujourd'hui. Je sens la triomphe. Mais savez-vous quoi? Si vous pensez que vous êtes un perdant, vous allez agir comme un perdant. Mais si vous voyez dans la parole de Dieu, vous plongez vos regards dans la parole de Dieu et on voit que je suis plus que vainqueur et je triomphe toujours en Jésus-Christ, je ne peux pas perdre. Parce que Jésus a gagné pour moi. Puis numéro 4, et là je vous donne juste 4, je pourrais vous donner 24. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vois un homme qui est mort avec Christ. Je vois un homme ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes. Je vois un plus que vainqueur qui triomphe toujours. Et je vois un héritier de Dieu et un co-héritier de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient recevoir un grand héritage un jour? Peut-être vous allez recevoir une lettre et votre oncle riche, que vous ne saviez même pas qu'il existait sur la planète Terre, il est décédé, il vous laisse tous ses biens. Bon, pas pire. Mais c'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour vous. Toutes choses ont été données à Jésus. Regardons ceci. Romains 8, 17. Alléluia. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de... C'est qui est héritier de toutes choses? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais laisse-moi vous poser une question. Où êtes-vous? En Christ. Et Christ est où? En vous, et Christ est assis à la droite du Père, et moi aussi je suis assis avec lui. Jésus est héritier de toutes choses. La Bible dit, même ailleurs, toutes les choses sur la terre, au-dessus de la terre et sous la terre lui appartiennent. Toutes choses dans l'univers appartiennent à Jésus. Il est en moi, je suis en lui, nous sommes une seule plante, il est la tête, je suis le corps. Je suis assis avec lui, je ne suis pas en perdant, je suis plus que vainqueur. Alléluia, et je suis beau en plus. Et vous? Alléluia! Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi, quoi? Héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu un compte conjoint à la banque? Vous savez c'est quoi un compte conjoint? Un compte. en solde du compte. On espère qu'il y a en solde créditeur et pas débiteur. Mais voici la chose. Tanya et moi, en compte, deux noms. Tout ce qui est à moi est à elle. Tout ce qui est à elle est à moi. Savez-vous quoi? Au ciel, en compte. Le nom de Jésus est sur le compte. Savez-vous quoi? Jésus a dit, allez, en mon nom, et faites des disciples. Jésus nous a donné qu'est-ce qu'on appelle la procuration. Nous avons un compte conjoint avec Dieu. Et s'il y a des choses dont vous avez besoin pour faire son œuvre, je n'ai pas dit pour votre propre quoi que ce soit, mais pas des petits besoins ou des petits désirs égoïstes, mais je parle de l'œuvre de Dieu. Si vous avez besoin de faire l'œuvre de Dieu, et vous avez besoin de quoi que ce soit pour le faire, vous avez un compte conjoint avec le roi des rois. Avec celui qui est assis sur le trône de Dieu, parce que vous êtes assis avec lui, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Jésus a hérité toutes choses. Quand il est ressuscité d'entre les morts, Dieu a donné tout à lui et je suis co-héritier de Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne manque de rien. Et j'ai confiance. N'est-ce pas bon? Tout le monde dit, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Jésus et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ et je triomphe toujours en lui. Je suis héritier de Dieu et je suis co-héritier de Jésus-Christ. Toutes choses sont à lui, alors toutes choses sont à moi. Alléluia! Regardez-vous dans le miroir. Et là, je vous encourage à faire une chose. Moi, je le fais à l'occasion et ça m'aide énormément. Surtout si vous commencez à filer un peu down. Prenez votre Bible, plongez vos regards dans ces versets, trouvez les versets qui parlent de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez faire. Lisez ces choses, dites-les à haute voix et puis devant un miroir physique, regardez-vous dans le miroir et dites, je suis une nouvelle création dans Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis mort avec Jésus-Christ. L'homme que j'étais auparavant n'existe plus. Il est enterré avec Jésus. Regardez-vous droit dans les yeux et le dire. Commence à déclarer qui vous êtes en Jésus-Christ. Dis au miroir naturel ce que le miroir surnaturel dit. Et vous serez transformés de gloire en gloire dans la même image de Jésus-Christ. Amen, on va se lever debout. Et là, il est midi et un, je pense, selon ça. Maman dit midi deux. Alors, donc, j'ai pris 2 minutes de plus. Je vous ai donné 2 minutes de plus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. Il vient d'appeler. Bon, il y a un monsieur qui vient de téléphoner à l'église. Et en fait, c'est quelqu'un qui a dit qu'il voulait se suicider. Mais il a appelé au secours. Donc, je crois qu'il a appelé à la bonne place. Et sûrement, Gaétan a bien répondu. On sait qu'on a certaines obligations légales dans ces cas aussi. Et on suit toujours ces procédures. Mais là, on croit que le Seigneur est présent et on croit que ce monsieur peut être touché par la puissance de Dieu puissant. Amen. Donc, on va prier. Et nous, vous savez que la prière fait vent d'un juste. Qui est juste ici? Est-ce qu'il y a des justes ici? Si vous êtes nés de nouveau, vous devrez tous avoir les mains dans l'air. Je suis juste. Parce que j'ai reçu un don. J'étais injuste, pourri, laid, mais Dieu m'a fait quelqu'un de beau. Amen. Il m'a rendu juste en Jésus. Et ce matin, on va prier pour cet homme qui s'appelle André. On va prier ensemble. Père Céleste, en nom de Jésus, nous savons que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et je suis juste parce que tu m'as donné cette justice. Tes oreilles sont attentives à nos prières. Nous prions ce matin pour André et au nom de Jésus, nous prions que les yeux de son cœur soient ouverts. Nous prions que le voile soit enlevé pour qu'ils puissent voir clair l'amour de Dieu et la splendeur de la gloire de Christ. Au nom de Jésus, envoie les ouvriers qui vont croiser son chemin, qui vont partager la bonne nouvelle, qui vont le garder en sécurité. Merci Père, au nom de Jésus, pour André. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Père Céleste. Dieu est bon. Et moi, je crois que le Seigneur va agir. Et le Seigneur est bon. OK. OK. Donc, juste un instant, on a juste une petite exhortation. Mais on va prendre l'autre micro, ça va être plus facile.
C'est juste que je pense que vous avez été remplis de joie en entendant ce message. En tout cas, mon esprit à moi tressaillait de joie. Et tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est le résultat de l'amour du Père. C'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est une merveilleuse créature en lui. Et il y a un verset qui est venu dans mon cœur, c'est en 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Amen.
Donc, Amen. Soyez bénis.
Alléluia. Merci Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Merci de vos prières pendant notre voyage. Nous serons là avec vous en esprit aussi. Vous allez avoir un bon temps la semaine prochaine avec Pasteur Suste à ne pas manquer. Je sais que ça va être un bon temps de célébration, de louange et de la parole. Alors, on va chanter un dernier chant. Je vais donner la main à la porte. Mais je vous aime et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes beaux!